Chapitre 16. Le lendemain, sur un coup de sonnette des plus énergiques, Léopold, ayant ouvert la porte du jardin, vit paraître Madame Poulot complètement ivre. Impossible de s'y méprendre, elle soufflait l'alcool et se cramponnait pour ne pas tomber. Sans rien dire, il referma impétueusement, au risque d'envoyer rouler la pocharde, et revint vers Clotilde qu'il trouva tremblante. Elle avait tout vu de loin et était très pâle. « Tu as bien fait, » dit-elle. « Tu ne pouvais faire autrement. Ne crains-tu pas cependant que ces gens ne cherchent à nous nuire ? Ils le peuvent, sans doute. Nous sommes si pauvres, si désarmés. Il faut croire que le chagrin m'a ôté le peu de courage que j'avais. J'ai peur de cette femme. »«
Que veux-tu qu'elle fasse ? Elle a dû comprendre que je renonçais à l'honneur de ses visites. Elle ne viendra plus, voilà tout. Si son âme sensible en est affligée, elle a la ressource de se saouler chez elle ou ailleurs. Je ne m'y oppose pas, mais qu'on nous laisse tranquille. Tu penses bien que je ne suis pas homme à souffrir qu'on nous embête. »
Confiance vaine et paroles vaines que le plus imminent futur allait démentir d'une manière atroce. Désormais, c'était la lutte bête, inégale, hors de toute proportion. Que pouvaient de généreux êtres férus de beauté contre la haine d'une gueuse ? Les plus honnêtes gens du pays, ceux-là même dont la Poulot endurait sans trop de rage les dédains, parce qu'ils avaient, suivant l'expression d'un vieux maraîcher paillard, le cul dans l'argent, et que la sorte de bon renom impliquée par cette posture correspondait rigoureusement à sa propre ignominie, l'élite bourgeoise de la Parc-Lavalière, disons-nous, se fût indignée de sa défaite. Cette raclure de Vestale ne représentait-elle pas, à sa manière, le suffrage universel, le juste et souverain goujatisme, l'omnibus sur le passage à niveau, le privilège sacré du bas-ventre, l'indiscutable prépondérance du borborygme? La noblesse pressentie des nouveaux venus devait donc infailliblement ranimer l'instinct de la solidarité dans une racaille disséminée aux divers étages du Saint-Frusquin, et la sympathie d'individus accoutumés à jeter leur cœur dans les balances de leur comptoir pour contrepeser frauduleusement d'un milligramme la charogne ou la margarine, pouvait-elle ne pas être acquise d'avance à une salope rebutée par les magnanimes ? Il n'y eut qu'un cri pour condamner cet artiste à la bourse plate qui brutalisait les femmes. Dès lors, tout fut permis à Madame Poulot. Pour commencer, elle guetta les absences de Léopold, dont la rudesse malgracieuse la désarçonnait. Quand elle avait acquis la certitude que la pauvre Clotilde était seule, elle s'installait à sa fenêtre et ne perdait aucune occasion de l'insulter. La malheureuse ne pouvait se montrer dans son jardin ni s'aventurer dans la rue sans subir quelque avanie. L'huissière, très roublarde, ne se risquait pas à des injures directes. Elle interpellait les passants et les interrogeait, les consultait, les excitait à l'insolence par des allusions ou insinuations vociférées. À défaut d'interlocuteur, elle se parlait à elle-même, dégorgeant et ravalant son ordure pour la revomir avec fracas aussi longtemps que sa victime pouvait l'entendre. Quand celle-ci, déterminée à ne rien savoir, baissait la tête et, se souvenant de son enfant mort, tâchait de prier pour d'autres morts qui n'étaient pas encore sous la terre, la drôlesse triomphante sonnait la fanfare de son rire de cabanon. Pétarade scandaleuse qui faisait mugir tous les échos et qui poursuivait Clotilde jusque dans les boutiques lointaines où elle allait s'approvisionner, comme la rance des vaches, dans un vallon goitreux colonisé par des assassins. À son retour, attentivement épiée, l'engueulade et la rigolade repartaient plus férocement encore. Et c'était une question digestive pour les ventres du voisinage, de savoir combien de temps une créature sans défense pourrait tenir contre ces bourrasques d'immondices. Quelquefois, un voyou de confiance venait tirer la sonnette et prenait la fuite.
Quel délice alors d'assister au désappointement de la mystifiée qu'on dérangeait autant que possible par les temps de pluie et qui rémunérait d'une expression douloureuse de son doux visage cette espièglerie de tapir femelle. Léopold ignora d'abord la persécution. Sa femme gardait tout pour elle, jugeant qu'il avait assez à souffrir déjà et craignant quelque déchaînement de fureur, quelque dangereuse tentative de représailles qui rendrait tout à fait impossible la situation. Mais il devina en partie, et bientôt d'ailleurs l'hostilité devint si aiguë qu'il fallut parler. Deux chiennes aboyaient maintenant. La moitié de la maison des Poulots était occupée par une squalide et ribotante vieillarde que menaçait la paralysie générale et qui régalait, dans sa tour de Nestlé, des mitrons cupides ou des jardiniers libidineux. C'était une veuve, assez à l'aise, croyait-on, pour se passer ainsi par le bec les morceaux de sa convenance, et qui affichait habituellement un suprême deuil. Elle avait à l'église un prie-Dieu marqué à son nom, et bien qu'elle réprouvât les excès pieux incompatibles avec les douceurs dont elle consolait ses ossements, on était sûr d'y apercevoir cette paroissienne à toutes les solennités. Madame Grand, tel était son nom, boitait, ainsi que la plupart des femmes de Parc-la-Villière, singularité locale que les géographes et les ethnologues ont oublié de consigner. Elle boitait à jeun, depuis le jour où, se laissant tomber de sa fenêtre au cours d'une altercation de vomitoire, elle s'était cassé la jambe. Mais elle boitait mieux lorsqu'elle venait de chopiner en compagnie d'un de ses élus ou seule à seule avec la Poulot. On la voyait alors déambuler comme un ponton entre des récifs, ayant l'air de remorquer des tronçons d'elle-même et mâchonnant dans ses fanons des anathèmes confus. On cherchait vainement à se figurer une douaigne plus horrible, une impotence plus capable d'étrangler la compassion. Madame Poulot et Madame Grand. Certes, l'amitié de ces deux cochonnes n'avait pas été annoncée par les sibylles. Elles s'étaient giflées déjà, et il y avait lieu de présumer que leur commerce de fioles et de simagrées au miel n'était qu'un armistice. Provisoirement, le besoin de nuire à des souffrants, dont la supériorité entrevue les exaspérait, fut entre elles du ciment romain. La jonction de ces deux puissances donna sur le champ, à l'ignoble guerre, une intensité diabolique. Chapitre 17. Sur le conseil de la vieille, on courut aux informations. Une enquête méticuleuse révéla tout le passé de Léopold, c'est-à-dire la légende cristallisée depuis longtemps. Quelle trouvaille que ce procès criminel qui paraissait les avoir jetés au bras l'un de l'autre, les faisant presque ressembler à des complices. Les entrailles de portières féroces où s'élaborait la conspiration tressaillirent en leur plus vaseuse profondeur. L'huissier se procura les comptes rendus, les appréciations des journaux. On interrogea des concierges, des marchands de vin, des épiciers, des fruitiers, des charbonniers, des cordonniers. On eut des colloques avec le dernier propriétaire, l'homme au pantalon, que Léopold avait plusieurs fois traité de manière peu respectueuse, et qui délivra un certificat de parfait opprobre à ses anciens locataires. Enfin, on sut la ruine de l'enlumineur, on eut même des opinions de pâturage sur son art, où il n'avait pas eu le talent de s'enrichir, et sans pouvoir, hélas, pénétrer ses moyens actuels d'existence, on les devina précaires en même temps qu'on les présuma suspects. C'était là une belle moisson, et il n'en fallait pas tant pour assassiner. Mais ce qui combla d'aise la Poulot, ce qui la fit revenir, un soir, avec le sourire d'une bienheureuse qui aurait entrevu, dans une extase, le fronton du paradis, ce fut de recueillir quelques détails sur la mort et l'enterrement du petit Lazare. Le reste, assurément, n'était pas à dédaigner, mais cela, C'était la friandise, le bonbon fin, le nanan de sa vengeance. Elle savait maintenant où frapper. Au plus intime de ce qu'on eût témérairement appelé son cœur, se tordait un horrible ver. La misérable en qui se vérifiait, une fois de plus, le mot magnifique « les grandes routes sont stériles » ne pouvait se consoler de n'avoir pas d'enfant à pourrir. Inféconde comme une culasse, elle s'en lamentait en secret, non moins qu'une juive des temps précurseurs. Ornée, pavoisée, avec la dernière profusion, de toutes les sentimentalités dont s'honorent habituellement les rosières des crocodiles, c'eût été le pinacle de sa chance, après avoir épousé un huissier, d'avoir de lui, ou de tout autre reproducteur, une géniture quelconque à lécher, à gaver, à bichonner, à fanfrelucher, à fagoter en petits soldats ou en petites cantinières, à remplir de toutes les sanies et de toutes les purulences morales dont elle débordait, à offrir enfin à l'envieuse convoitise de la multitude. L'exhibition en espalier de ce provins légitime eût été, à ses propres yeux, le définitif et irréfragable nantissement d'une qualité d'épouse que même l'accoutumance ne parvenait pas à rendre croyable. Forcée de quitter ce rêve, elle s'en consolait à la manière d'une goule, en comptant les petits cercueils des enfants des autres, et le deuil de sa malheureuse voisine fut pour elle un fruit tombé d'un arbre du ciel. Alors s'accomplit une œuvre démoniaque. Clotilde vit paraître à la fenêtre maudite un enfantelet de l'âge de celui qu'elle avait perdu, porté dans les bras infâmes. La Poulot lui parlait le langage d'une mère, l'incitant à bégayer les mots qui crèvent le cœur. « Allons, dis papa, dis maman !» et ne se lassant pas de le profaner de ses baisers retentissants. L'autre fenêtre s'ouvrit, celle de la vieille, qui se montra à son tour plus hideuse que jamais. « Bonjour, Madame Poulot.
Bonjour, Madame Grand. N'est-ce pas qu'il est gentil, mon petit garçon ?
Pour sûr, on voit que ses parents ne sont pas des artistes. Si ça ne fait pas dresser les cheveux sur la tête de penser qu'il y en a qui les font mourir, ces chérubins.
Ah, chère madame, ne m'en parlez pas. Ce qu'il y a de la canaille dans le monde, c'est rien de le dire.
Heureusement qu'il y a un bon Dieu, fit observer la vieille.
Un bon Dieu ? Ah ah, ils s'en foutent pas mal. Ils le croquent tous les matins, leur sacré bon Dieu. Ça ne les empêche pas de faire crever leurs enfants. J'en connais qui ne sont pas loin d'ici. La femme a l'air d'une sainte nitouche, et le mari est un faiseur d'embarras sans le sou qui vous regarde comme si on était du caca, sauf le respect que je vous dois. Eh bien, croiriez-vous qu'ils ont étranglé leur petit garçon, à eux deux, en revenant de la messe, et il n'y a pas déjà si longtemps ?
Voyons, mon petit coco, dis papa, dis maman.
Ah oui, je me souviens. Est-ce que ce n'était pas au petit Montrouge ? On en a parlé dans le quartier, mais on a étouffé l'affaire. Il paraîtrait que le curé qui a le bras long s'en est mêlé. Je me suis laissé dire aussi que la petite bonne femme couchait avec la justice. Tout ça, c'est des bien sales histoires.
Et encore, si c'était tout, reprit la Poulot, est-ce que mon mari vous a fait lire les vieux journaux qu'il a trouvés en balayant les cabinets ? Vous savez bien, ce peintre qui avait été assassiné par sa maîtresse.
Comment ? Vous ne savez pas ?
Mais c'était juste la même, chère madame, avec son marlou. Il l'avait coupé en morceaux, ce pauvre monsieur, et il l'avait salé comme un cochon pour l'envoyer à Chicago. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Ils ont trouvé le moyen de faire accroire au juge que c'était un autre qui avait fait le coup. On a condamné à leur place un ouvrier, père de 5 enfants, qui travaillait toute la sainte journée pour nourrir sa famille, et qui est maintenant au bagne. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Tu me griffes, petit chameau ? Dis avec moi, papa, 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 maman, maman, maman.
Bien que tout cela fût extrêmement gueulé, Clotilde, ce jour-là, n'en entendit pas davantage. Elle ne revint d'un long évanouissement que dans les bras de son mari, à qui elle raconta aussitôt, avec une horreur infinie, l'épouvantable conversation.
Léopold alla se plaindre au commissaire de police, qui fit comparaître les deux femelles et lui tint ensuite ce langage. « Monsieur, je suis forcé de vous avouer mon impuissance. Vous avez affaire à des bougresses parfaitement dessalées qui s'efforceront de vous nuire par tous les moyens imaginables, sans se mettre en contravention. Je les connais très bien. J'ai leur dossier ici et je vous prie de croire que ce n'est rien de propre. Si on pouvait les pincer une bonne fois, elles écoperaient ferme, c'est fort probable. Mais il faudrait pouvoir les convaincre de quelques délits prévus. Tâchez donc d'avoir des témoins et d'amener vos deux mégères à un esclandre bien caractérisé. Alors nous pourrons marcher. Sinon, je ne vois rien à entreprendre, et les chiennes se sont peu gênées pour me le faire sentir avec une insolence rare. C'est tout juste si j'ai pu prendre sur moi de ne pas les jeter dehors par le moyen des rudes poignes qui sont ici. Ah, mon cher monsieur, vous n'êtes pas le seul à vous plaindre. Notre fonction devient de jour en jour plus impossible. Nous sommes loin du temps où le magistrat de police pouvait remédier, dans une certaine mesure, aux lacunes de la loi qui n'apprécie pas les crimes d'ordre moral. Les journaux surveillent toutes nos démarches, avec l'équité que vous savez, et la mise à pied nous est acquise aussitôt que nous avons l'air d'outrepasser le moins du monde nos strictes attributions. Soyez assuré, monsieur, que je compatis à votre peine, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. Produisez-moi des témoins, c'est mon dernier mot. Un témoin est un instrument qu'il faut avoir sous la main. Or, ce n'est pas facile à trouver pour des solitaires et des dénués. Druide était absent de Paris et l'Île-de-France absent de lui-même. Les deux ou trois autres sur lesquels on aurait pu compter étaient tellement dévorés ça et là qu'il valait mieux n'y pas songer. Léopold se souvint alors d'un pauvre homme qu'il avait rencontré plusieurs fois à l'église et avec qui il avait eu l'occasion d'échanger quelques mots. Celui-là se nommait assez cocassement Hercule Joly, et c'était bien le personnage le moins héraclide qu'on pût voir. Très bienveillant et très timide, mais plus chauve encore, long et flexible comme un cheveu, il s'exprimait avec des mitaines infinies, d'une voix aphone, ayant toujours l'air de se parler lui-même à l'oreille. Les yeux, d'un bleu extrêmement doux, ne manquaient pas de promptitude, mais on les devinait plus capables d'étonnement que de perspicacité. Il avait de tout petits pas rapides, de grands gestes braves, un sourire d'une niaiserie attendrissante, parfois les mouvements saccadés d'un aigrotant que traverse une douleur vive, et ressemblait sous sa barbe en pointe à une vieille demoiselle derrière un balai de crin. Il était, cela va sans dire, célibataire, employé d'administration et tourangeau. L'ancien explorateur qui possédait le coup d'œil d'un chef avait discerné là, du premier coup, une droiture, une fidélité et même une bonté certaine. Il le prit donc à part dès le lendemain matin et lui expliqua brièvement son cas. « Je m'adresse à vous, dit-il en terminant, parce que vous me paraissez avoir les qualités de chrétien et que je ne connais ici personne. J'ajoute que l'immonde et scélérate persécution qui peut tuer ma femme rejaillira vraisemblablement sur ceux qui m'assisteront de leur témoignage. » « Monsieur, répondit aussitôt l'interpellé, comptez sur moi. Je pense qu'il est en effet de mon devoir de vous aider en cette occasion, autant qu'il me sera donné de le faire, et je serai certainement peu digne de miséricorde si je cherchais à me dérober. Pour ce qui est de la haine que ces dames pourraient me décerner, je vous assure que je n'ai aucun mérite à en braver la menace. Je vis seul. » Et les railleries ou les injures qu'on veut bien me lancer par derrière m'ont toujours produit l'effet d'une brise favorable qui enfleurait mes voiles. D'ailleurs, ajouta-t-il en riant, comme pour cacher une sorte d'émotion, souvenez-vous que je me nomme Hercule et que je dois quelque chose à la mythologie de ma signature. À ce soir donc, monsieur, l'honneur de me présenter chez vous. Sur cette assurance, il serra la main de Léopold
et se mit à trotter dans la direction de son bureau. Chapitre 18. Les persécutés gagnèrent un ami, mais l'abjecte conspiration ne fut pas déconcertée. Hercule, enchaîné tout le long du jour au pied de l'omphale administrative, ne pouvait venir que le soir et n'avait aucun moyen d'entrer sans être aperçu. Il était impossible de sonner à la porte de Léopold ou de s'arrêter devant leur seuil sans que mesdames Grand et Poulot s'élançassent à leur fenêtre. Elles flairèrent immédiatement l'objet de ces visites et se gardèrent, en sa présence, de toute parole inconsidérée. Ce fut à cette occasion que le brave homme conquit la renommée de « Mouchard », dont il parut s'amuser d'abord, mais qui, plus tard, devait le contraindre à fuir Parc-la-Vallière, où cette calomnie avait été répandue. Très régulièrement, il vint près d'un mois et tendit l'oreille comme un lévrier, sans recueillir la matière d'une concluante et valable déposition. À la fin, comprenant l'inutilité de son zèle et craignant de devenir importun, il cessa d'être quotidien, naïvement heureux qu'on voulût bien désormais le recevoir quelquefois en ami. Léopold, d'ailleurs, ne le rencontrait pas sans l'inviter d'une manière pressante. Tout de suite, il avait plu aux deux solitaires qui rendirent grâce à Dieu d'avoir mis cet homme simple dans leur voie douloureuse. Ils trouvèrent en lui une certaine culture d'esprit, assez consolante pour l'endroit, et surtout, ainsi que l'avait pressenti Léopold, une bonté droite et solide que l'inqualifiable méchanceté de l'entourage faisait ressembler à du diamant. De cette qualité, presque aussi rare aujourd'hui que le génie, découlait naturellement la discrétion la plus ingénieuse, la plus inventive. Ayant deviné sans effort la gêne excessive du pauvre ménage, il les déploya, étant un pauvre lui-même, des ruses de pieds noirs pour faire accepter sous diverses formes des secours faibles et opportuns. Souvent, la table des Léopold fut par lui cauteleusement approvisionnée. « Monsieur Joly, disait Clotilde, vous êtes pour nous le pélican de la solitude. » On oublia bientôt de part et d'autre qu'on se connaissait depuis peu. Cependant, la guerre salope continuait avec une violence plus intolérable. Les femelles, exaspérées de l'humiliante assignation chez le commissaire de police, épuisèrent tout ce qu'une rage prudente peut imaginer. C'était chaque jour une continuation de la farce crapuleuse aux deux fenêtres, un dialogue nouveau, avec la strophe et l'antistrophe du théâtre antique, enfin et surtout les interpellations aux passants, joyeux d'être associés à une tentative d'assassinat qui ne les exposait à aucun danger. De tout petits êtres innocents, des enfants de 3 à 5 ans raccrochés çà et là, venaient apprendre chez la Poulot les homicides de paroles supposées capables de rouvrir et d'empoisonner une plaie terrible. Quand elle était lasse de la fenêtre, la Bréhaigne gueuse apparaissait sur le toit, arrangée de manière de terrasse et grotesquement décorée de ses vases lits de vin ou cul de bouteille, multipliés par une céramique d'opprobre pour le châtiment des hommes. Elle se promenait là, dans le costume déjà dit, quelquefois à moitié nue, vociférant aux 4 points cardinaux qu'elle était « chez elle » et que ceux qui n'étaient pas contents n'avaient qu'à fermer les yeux. Excellente place pour gueuler, pour tintamarrer de son olifant, pour lancer sa fiente et son pu, pour arborer les attitudes ou les postures dont il fallait que bavât de concupiscence tout le quartier. « Le cas de cette pauvre goujate me paraît grave, » dit Hercule Joly, un soir qu'elle lui avait fait entendre son rire. « Le cas de cette pauvre goujate me paraît grave, » dit Hercule Joly, un soir qu'elle lui avait fait entendre son rire au moment où il entrait chez ses amis. « C'est une démoniaque d'un genre très particulier et qui doit être cataloguée dans les ouvrages spéciaux. »
Il est certain que l'espèce de convulsion sardonique dont elle est agitée si souvent implique tout autre chose que le sentiment d'une joie quelconque. C'est à croire que les invisibles qui vous harcelaient dans votre ancienne demeure ont pris possession de cette huissière pour vous tourmenter ici. Le traitement de ce genre d'affection est, je crois, indiqué dans le livre de Tobie, mais il faudrait un thérapeute plus idoine que le galop Chopin qui lui sert d'époux. Je me demande si une belle volée administrée à celui-ci ne serait pas ce qu'il faudrait pour produire par contre-coup une heureuse crise. J'y ai pensé, répondit Léopold, que cette opinion d'un homme doux rafraîchissait. Mais la situation est telle que je dois craindre, en cas d'insuccès, quelque revanche abominable dont je ne serai pas seul à souffrir.
Les choses en étaient venues au point que Clotilde avait dû renoncer à sortir seule. Les polissons l'injuriaient dans la rue, et de spirituels boutiquiers, sur leurs portes fines, l'accueillaient à son passage avec des chuchotements et des sourires. Un marchand de couleurs épigrammatiques et turlupins se signalait entre tous. La pauvre femme ne pouvait passer devant sa poudre à punaise sans qu'aussitôt il engageât quelques colloques facétieux avec les compères. Un jour que Léopold n'était qu'à trois pas, le drôle ayant eu l'imprudence de laisser paraître sa gaieté sans avoir au préalable interrogé l'horizon, il en fut radicalement et soudain guéri. Le rigolo vit paraître, comme en songe, une si démontante figure de trabant ou de maugrabin, et les quelques syllabes sèches qu'il entendit lui procurèrent une souleur telle qu'il devint liquide. Mais il aurait fallu recommencer à tous les seuils. Une malchance inouïe voulait que ces douloureux qui n'aspiraient qu'à la solitude, à la vie humble et cachée, et qui ne demandaient rien à personne, fussent abhorrés de tout le village où ils avaient cru trouver un refuge, et que la crotte même d'entre les pavés se leva contre eux. Résolument, Clotilde alla trouver la propriétaire. L'habitation de cette châtelaine s'adossait à leur pavillon, et il suffisait d'ouvrir une claire-voie pour être chez elle. Personne, par conséquent, n'était mieux placé pour tout entendre et pour tout voir. Les Léopold la connaissaient à peine de vue, n'ayant eu avec elle que le protocole indispensable du contrat de location. Ils avaient d'elle tout au plus l'impression d'un sarment de vigne vierge irréparablement desséché. Mademoiselle Planude était une pucelle confite qui portait avec une facilité singulière ses 65 ans de vertu. Pétulante comme un jeune dindon et pointue comme un ergot, elle avait une voix de gendarme et précipitait ses paroles avec la rapidité d'un expéditeur de fruits aigres menacé de rater le train. Un peu naine, un peu bossue, on ne voyait qu'elle à l'église, où elle avait l'air de s'engouffrer pour échapper à quelque monstre furieux et d'où elle s'élançait d'heure en heure pour accélérer une mercenaire qu'elle idiotifiait. Elle était de toutes les confréries ou archi-confréries, trempait dans toutes les œuvres, participait à toutes les propagandes, fourrait des petits papiers dans toutes les mains, mais on ne se souvenait pas de lui avoir vu lâcher un centime. Son avarice éblouissait Parc Lavalière. On citait avec admiration la fermeté d'âme de cette vierge sage qui ne donnait certes pas d'huile de sa lampe aux détraqués et qui s'éclairait toute seule en attendant le fiancé. Volontiers, on rappelait la haute et touchante histoire de cette famille de locataires, les prédécesseurs de Léopold, jetés par elle dans la rue, avec une énergie, une sérénité, une constance, une inflexibilité digne des martyrs. Un mari malade et sans emploi, une femme enceinte et 4 petits, dont 2 en moururent. Balayée toute cette vermine, elle-même en cette occasion s'était comparée à la femme forte du Livre Saint. Sans doute, il lui eût été facile de s'attendrir lâchement à l'exemple de quelques autres qu'on doit, pour l'honneur des propriétaires, supposer très rares. Elle n'en serait pas devenue plus pauvre,
mais le principe eût été fricassé du coup, et il y a des moments où c'est un devoir d'imposer silence à son cœur. Mademoiselle Planude s'agenouillait à la table sainte avec un petit sac de titres et d'obligations ficelé sur sa chaste peau en compagnie des médailles et scapulaires. Clotilde, qui croyait n'avoir affaire qu'à une dévote banale, fut arrêtée dès les premiers mots. « Ah, madame, si vous venez m'apporter des cancans ou des médisances, vous tombez mal. Je ne m'occupe pas de mon prochain et je ne veux rien savoir. Tout ce que je demande, c'est d'avoir de bons locataires qui payent leur terme à la minute et qui n'occasionnent pas de scandale dans ma maison. Si cela ne vous convient pas, vous êtes libre de partir, en réglant 3 mois d'avance, bien entendu. » Tel fut le premier élan de cette pouliche. « Mais, mademoiselle, s'écria la visiteuse un peu suffoquée, je ne comprends rien à votre accueil, je n'aime pas plus que vous les médisances et les bavardages, et c'est précisément parce qu'ils me font horreur que vous me voyez ici. Il est impossible que vous n'ayez pas entendu, que vous n'entendiez pas chaque jour les injures horribles et les provocations continuelles dont on nous accable. J'ai pensé naturellement qu'étant notre propriétaire, vous ne nous refuseriez pas votre intervention, ou du moins votre témoignage. » « Mon témoignage ? Ah, c'est donc ça, vous avez compté sur mon témoignage. Eh bien, ma petite dame, vous pouvez vous fouiller si vous avez des poches. Faites-moi appeler devant le commissaire, moi aussi, puisque c'est votre genre. Vous verrez comme ça vous réussira. Si c'est des gens d'en face que vous avez la prétention de vous plaindre, apprenez pour votre gouverne que ce sont des personnes honorables qui ont su gagner de l'argent et qui n'ont jamais fait de tort d'un sou à personne. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça ? D'ailleurs, je sais ce que je sais. Votre mari, je me permets de vous le dire, est un malotru qui a à moitié assommé cette pauvre madame Poulot. Et il paraît que de votre côté, vous n'avez pas la langue trop mal pendue. Il m'est revenu que vous vous êtes permis de bien vilains mots pour ne rien dire de cette grande andouille que vous recevez depuis quelque temps et qui a une drôle de réputation dans le pays. » Clotilde se leva et partit, mais après avoir secoué ses chaussures contre le seuil maudit, par un mouvement tout instinctif, comme si l'anathémale recommandation de l'Évangile était inscrite mystérieusement au fond des cœurs, avec les 10 000 autres paroles du Seigneur, « Qui tue et qui vivifie ? Quiconque ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos discours, en partant de sa maison, secouez la poudre de vos pieds. » « Mon ami, dit-elle en rentrant, je viens de voir le démon. » Elle tomba malade et faillit mourir. La jubilation du voisinage fut immense et se déploya comme le programme d'un triomphe antique. Des clameurs barbares, des huées de cannibales furent entendues tout le long des nuits. Les mots monstrueux, les rires diaboliques percèrent les murs et vinrent poursuivre la malheureuse jusque dans le détroit noir, plein de flots furieux et plein d'écume de sa commençante agonie. « On ne crève donc pas encore dans la chapelle ?» disait une voix qu'on aurait pu croire évadée de la fosse. « Garçon, un pernaut !» hurlait l'huissière, s'adressant à son huissier. « Mon gros poulot, nous allons boire à la santé des infanticides et des va-nu-pieds. » « Je vous disais bien qu'il y a un bon Dieu !» croissait à son tour la vieille grand. « Dame, vous savez, quand on a tué des petits-enfants, ils viennent quelquefois vous tirer la nuit par les cheveux. » « Pourvu que les charognes n'aillent pas nous foutre la peste !» concluait dans un gargouille d'entonnoir la pocharde femelle d'un employé du cimetière. Lorsqu'un prêtre vint, un peu avant l'aube, administrer la malade et lui porter le viatique, on s'abstint, il est vrai, d'illuminer. On peut même dire que le vacarme s'atténua. Mais aussitôt après son départ, la Poulot, effroyablement saoule, se mit à chanter. À l'exception de Jolie qui avait assisté à la cérémonie et dont les protestations véhémentes furent accueillies par des ricanements et des sifflets, nul ne s'avisa d'élever le plus léger blâme, ne parut remarquer l'énormité sacrilège de l'attentat. Mademoiselle Planude courut prestement s'enfiler les premières messes, non sans avoir pris, en passant, des nouvelles préalables de la santé de cette bonne Madame Poulot, qui lui rôta ses civilités, et le soleil tranquille de la banlieue se leva une fois de plus sur d'heureuses tripes qui ne demandaient qu'à s'emplir. La convalescence fut longue, précédée et interrompue par de fréquents accès de délire. Clotilde, qui avait été aussi près que possible de la mort et que la vertu curative, si parfaitement oubliée, du sacrement avait sauvée, raconta qu'elle avait vu passer devant elle, sous des images sensibles et du caractère le plus effrayant, la malice étrange de ces bourreaux qu'elle représenta sans s'expliquer davantage comme des êtres infiniment malheureux. Elle évita d'en parler avec amertume et cessa complètement de souffrir de leurs outrages qui diminuèrent d'ailleurs en même temps que leur pouvoir de torturer la victime dont la guérison surnaturelle parut avoir décontenancé les tueuses. Ce fut à ce moment que Léopold, devenu semblable à un spectre, lui raconta ce qu'il avait osé faire. Chapitre 19. Quelle situation que celle de cet homme durant ces semaines interminables! Un philosophe cambodgien donnait à manger à de jeunes tigres pour que, devenus grands, ils ne le dévorassent pas. Tombé dans le dénuement, il se vit forcé de leur diviser des morceaux de sa propre chair. Quand il ne lui resta plus que les os, les nobles seigneurs de la forêt le quittèrent, l'abandonnant aux rongeurs immondes. Léopold, quelquefois, s'était souvenu de cet apologue barbare. Il s'était dit que ses tourments anciens avaient été bien inconstants, bien ingrats, de ne pas l'engloutir tout à fait et de livrer sa triste carcasse à la vermine. Que lui servirait d'avoir eu un cœur si fort, et que pouvait-il maintenant, le temps est loin où on pouvait donner des coups de bâton au-dessous de soi, et il n'y a pas d'isolement comparable à l'isolement des magnanimes. Tout se détachait contre cela. N'étant pas comme tout le monde, quels égards, quel respect, quelle protection, quelle miséricorde devait-il attendre? Au contraire des perles évangéliques et de ce que le Verbe crucifié a nommé le pain des fils, les lois répressives sont surtout au profit des chiens et des pourceaux. Ah, s'ils avaient été riches, tous les ventres autour d'eux eussent adhéré à la terre. On n'aurait pas eu assez de langues pour lécher leurs pieds. Léopold, qui avait autrefois jeté 1 million au désert d'Afrique, passa 20 jours et autant de nuits près du lit de sa femme, presque sans sommeil et sans nourriture. Partagé entre les soins donnés à la malade et l'épouvantable souci des expédients à imaginer pour que rien ne lui manquât. Percevant avec une précision terrible du fond des ondes où il s'abîmait la brigande clameur du dehors et tenté combien de fois de s'élancer en exterminateur sur cette racaille. Le dévouement de Joly sauva ces deux êtres si cruellement aimés de Dieu. L'excellent homme fit pour Léopold des démarches, des courses infinies et partagea souvent avec lui l'écrasante fatigue des veilles. Il inventa des ressources, des combinaisons lunaires, des crédits invraisemblables, parut frapper de la monnaie à son propre coin. On ne voyait plus que lui dans les bureaux du monde piété. La Providence elle-même n'aurait pu mieux faire. Pendant un de ses accès, Clotilde vit ce front chauve parmi les enfants que Jésus voulait qu'on laissât venir à lui. Un soir que la très chère avait pu s'endormir, malgré les cris habituels qu'elle finissait par ne plus entendre, Léopold, laissant la garde de la maison à l'ami fidèle,
était sorti pour une démarche importante qu'il ne pouvait confier à personne. Un peu avant d'atteindre les fortifications, bien qu'il marchât d'un pas très rapide et que son attention ne fût sollicitée par aucun objet extérieur, tout à coup, il avait reçu par les yeux une commotion qui l'arrêta net. L'huissier Poulot était devant lui. La nuit tombait et le lieu était parfaitement solitaire. Le rosser d'une manière atroce eût été, pour l'opprimé si voisin du désespoir, une joie facile, et telle avait été sa première pensée. Mais il avait eu assez d'empire sur lui-même pour se rappeler qu'il s'agissait d'un chacal de police correctionnelle et que la vengeance du misérable pourrait coûter définitivement la vie à Clotilde, en la privant tout à fait de sa présence et de ses soins pour un temps indéterminé. Étouffant donc sa colère par un effort dont il avait cru mourir, il s'était approché du bel itre et, d'une voix un peu tremblante, « Monsieur Poulot, avait-il dit, je crois inutile de vous faire observer que nous sommes très seuls et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous casser les reins si c'était mon bon plaisir. Par conséquent, vous allez m'écouter silencieusement et avec respect, n'est-ce pas ? Quelques mots suffiront, je n'ai pas coutume de faire de longs discours à des gens de votre sorte. Vous savez ce qui se passe chez vous, je suppose. Vous n'ignorez pas que le péril de mort d'une personne que je ne vous ferai pas l'honneur de nommer est l'œuvre de votre ivrognesse de femme. Voici donc l'avis que je vous donne pour la première et dernière fois, en vous engageant à le méditer. Si la personne dont je parle venait à succomber, vous m'entendez bien, monsieur Poulot, j'estimerais que je n'ai plus rien à perdre en ce monde, et je vous jure que vous seriez plus en danger, vous et votre femelle, que si la foudre tombait sur votre maison. » Il l'avait quitté sur ces derniers mots, proférés avec un accent capable de les enfoncer comme des lames dans les intestins du pleutre, qui, d'ailleurs, avait paru hors d'état d'exhaler le plus léger son. Mais bientôt après, une tristesse immense était descendue sur lui. À quoi bon cette scène ? N'était-il pas en dessous du rien, cet individu immonde, qui ne pensait ou ne respirait que par le monstre de crasse et d'ignominie où il se vautrait comme dans un bourbier ? En supposant qu'il entreprit de faire partager à sa crapaude la sale peur dont il était visiblement pénétré pour quelques jours, il était, hélas, trop probable que celle-ci verrait là, surtout, l'occasion d'affirmer la supériorité de son courage et se ferait une gloire nouvelle de braver un péril qui ne la menaçait pas un instant. Quelque poltronne qu'elle fût, et quoique vraisemblablement rouée de coups maintes fois dans les anciens jours, ses pratiques de gueuse effrontée avaient dû lui donner, quand même, le préjugé si tenace chez les plus salopes d'une immunité de droit divin pour l'insolence ou la méchanceté des femmes. Et qu'elle ne devait pas être l'ensorcellement, la toute-puissance de persuasion de cette Poulot sur le compagnon fétide et agenouillé dans la bouse de sa compagnonne, qui ne vivait que pour le régal d'ordures qu'elle lui servait, sans doute chaque soir. Même en plein jour, il avait fallu subir leur grognement, leur bruyante pâmoison, leurs soupirs et les gémissements réitérés de leur vomitive luxure. Car ils ne fermaient pas leurs fenêtres et s'ébattaient chiennement derrière une jalousie. Ah, on avait entendu de drôles de choses. Puis, se disait Léopold découragé, ils sont si bêtes, si fangeusement ignares, si crétins. En dehors du trac puant que l'imminence d'une raclée peut déterminer en eux, que sont-ils capables de comprendre? Et comment pourrait-il entrevoir seulement le danger de pousser à bout un individu tel que moi? Alors, cet homme de courage, ce partisan de l'impossible, ce chef téméraire qui avait assoupli le destin, cet artiste d'or crénelé de flamme, fut profondément humilié. Il sentit le néant de la force, l'inutilité de l'héroïsme, la désespérante vanité de tous les dons. Il se vit semblable à un de ces vigoureux insectes, buveurs de miel, enlacés dans les fils gluants d'une araignée. Ses efforts puissants crèvent en vain la toile impure. L'ennemi horrible, sûr de sa proie, bondit hors d'atteinte et ramène avec promptitude les mailles rompues de l'abominable filet sur le corselet brillant de la victime. Dès le lendemain, ce vaincu alla régulièrement communier à la première messe. Et pendant 2 fois 9 jours, la bouche pleine du sang du Christ, voici le cri qu'il poussa. « Seigneur Jésus, je vous demande pour votre gloire, pour votre justice, pour votre nom, de confondre ceux qui nous outragent dans notre maison, qui nous haïssent, qui nous tuent, qui aggravent si cruellement et si injustement notre pénitence. » Puisque telle paraît être la forme définitive de l'hostilité du démon qui ferma si longtemps mes lèvres, et que je n'ai rien à espérer d'aucun homme, c'est à vous, Jésus, caché dans l'Eucharistie et caché en moi, que je demande protection. Sans phrase ni détour, je vous demande contre ces deux femmes un châtiment rigoureux qui fasse éclater votre nom, c'est-à-dire un châtiment très manifeste, qui rendent visibles leurs péchés. Je vous demande enfin que ce châtiment soit prochain. Et je crie cela vers vous, Seigneur, du fond de mon abîme, par la bouche de votre père David, par les patriarches et les juges, par Moïse et tous vos prophètes, par Élie et par Enoch, par saint Jean-Baptiste, par saint Pierre et par saint Paul, par le sang de tous vos martyrs, mais surtout par les entrailles de votre mère. Faites attention, Seigneur Jésus, que je ne vous offre pas moins que ma vie en échange de cette justice, que je réclame avec toute la force que votre passion a donnée à la prière humaine. Lorsque Clotilde connut cette étonnante prière, elle joignit les mains, renversa doucement la tête, montrant son visage en pleurs, et ne dit que ces simples mots: les pauvres gens, les pauvres gens. Chapitre 20. On se remit au travail. On reprit le livre interrompu pendant 3 mois et qui était l'unique ressource pour l'avenir. Si Dieu voulait que de tels pauvres eussent un avenir sur terre. Comme auparavant, ce labeur fut interrompu fréquemment par la misère ou par l'angoisse. Mais l'admirable Joly, continuant son rôle de providence, on put se traîner le long de cette œuvre et commencer d'en apercevoir la fin. Depuis les 18 jours de la prière terrible, l'hostilité des voisins semblait frappée de paralysie, et Léopold attendait en paix, avec une effrayante confiance, la catastrophe. À la suite d'on ne sut quel incendie de torchons, les 2 cochonnes se brouillèrent et la vieille Grand déménagea. Quelque temps après, on la trouva morte dans sa chambre au bout du village, les entrailles rongées par son chien, un horrible molosse veron qui ressemblait à sa maîtresse et qui avait un museau de brochet. « C'est le tour de l'autre, maintenant, » dit tranquillement Léopold au facteur de la poste qui lui racontait la nouvelle. Ce mot, entendu par la Poulot, qui n'était jamais bien loin, fut pour elle comme le signal de toutes les disgrâces de la fortune. L'huissier, compromis dans quelques fiascos, se vit forcé de vendre le mobilier de son « salon ». Même les reliques les plus chères, l'armoire à glace et le canapé de madame, qu'elle montrait avec tant d'orgueil, ainsi qu'un vétéran sa panoplie, disparurent, et le gracieux couple alla cacher dans Paris son humiliation. Pendant 1 semaine, on désinfecta leurs clapiers. La persécution était finie, plus que finie, car il se fit autour des Léopold une sorte de crainte vile et superstitieuse. L'accusateur, cependant, attendait encore. Il savait qu'il y aurait autre chose, qu'il devait y avoir autre chose, et que ce n'était pas pour cela seulement qu'il avait mis en gage le corps du Christ.